Hey, 16h pile, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. On est à moins 9 degrés avec un soleil qui réchauffe pas bien bien, étant donné que le refroidissement éolien prend une bonne partie de ce qui se passe présentement. La réalité, c'est qu'on file moins 17 présentement à Québec. La réalité, c'est qu'on a un 2 à 4 cm de neige qui va tomber ce soir et cette nuit avec des rafales de vent à 40 km/h. Résultat, on file moins 23 ce soir et cette nuit. Demain, pour les gens qui vont faire de la route, pas l'idéal en avant-midi. De la neige, de la poudrerie, des rafales de vent à 60 km/h, un 5 cm de neige. On monte à moins 5, mais on le filera pas bien, bien. Le refroidissement éolien nous place ça à moins 12. Dimanche, du temps froid, soleil, moins 11 degrés. Lundi, du temps froid, maximum de moins 9. Et pour le reste de la semaine de relâche, on va se promener autour du 0 degré. Bonne relâche à tous ceux qui se lancent dans les prochaines heures et les prochaines minutes. Sur les routes, comment ça se passe, Audrey?
On est dans le gros moment difficile, mettons, de l'après-midi, là, sur Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne. Très au ralenti, direction Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Il y a un ralentissement assez léger sur Robert Bourassa Nord, entre Charest et la Capitale. L'entrée des ponts, direction Sud, c'est quand même difficile là, que vous arriviez de Duplessis ou d'Henri IV au moment où on se parle. Ça ralentit à peu près à la hauteur de Chemin Sainte-Foy jusqu'au pont. Et pour ce qui est de la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles que ça se passe. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-102 par texto.
Dès que je l'ai vu sur l'écran de mon téléviseur mardi soir, je me suis dit « Mon Dieu Seigneur, cet homme est reposé ». Et ça m'a mis un sourire d'en face. On est avec notre ami Pierre-Aude. Salut Pierre, welcome back.
Merci beaucoup Denis, très heureux d'être de retour. Bonjour Véro, bonjour Audrey,
allô,
salut
allô.
Tout le monde. Oui, très heureux d'être de retour avec vous. Disons que j'ai peut-être l'air de ce que je ressens aussi à l'intérieur. Alors, tant mieux si bon. C'est ce que je projette, parce que ce fut une pause qui a été gagnante pour tout le monde. C'est une pause qui a été gagnante pour les amateurs de hockey. C'est une pause qui a été gagnante si on est un peu patriote.
Oui. Ah, tu dis, toi!
Et c'est une pause qui a fait certainement du bien à ceux qui ont pu en profiter. Je parle à la plupart des joueurs de la Ligue nationale. Je parle aussi aux entraîneurs de la Ligue nationale, tout le personnel qui travaille autour, et ça inclut nous, à RDS. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas suivi à distance ce qui se passait sur la patinoire, autant à Montréal qu'à Boston. Mais honnêtement, Denis, je te parlais un peu de mon état d'esprit avant qu'on parte,
ouais.
Avant qu'on arrête il y a deux semaines, puis je te disais que je vivais une certaine angoisse parce que ça n'arrive pas vraiment à ce temps-là de l'année. Les opportunités que j'avais à l'époque étaient peut-être liées au calendrier du Canadien et à celui de TVA Sports. Si on était en Floride, des fois, j'avais un 3 jours, mm-hmm. un 4 jours qui était circonstanciel. Là, c'était vraiment une pause, dans notre cas, presque 9 jours. Et je te disais que c'était comme si j'avais peur de baisser ma garde, hein, de baisser l'espèce de mur de forteresse que tu te fais pour rester dans ta bulle de travail, de rigueur, de préparation et tout ça. Et puis, c'était comme ça. Puis même, ajoute à ça, les tempêtes, la crainte d'avoir des vols retardés, des vols annulés. Il y en a eu une tonne, puis c'est pas de la faute des opérateurs. Là, la météo a été épouvantable. Et par la gentillesse de la Providence, pour nous, tout a bien été. On est parti pour notre vacances entre les deux tempêtes, le samedi matin. Le pire retard qu'on a eu, c'est 1 heure à peine pour l'avion. Tout a bien fonctionné en arrivant sur les lieux de notre vacances. Et après 48 heures, j'ai fini par baisser les bras, j'ai fini par baisser les gardes.
Bon.
Et je me suis laissé aller. Et ça a été vraiment exceptionnel. Exceptionnel pour le corps, bien sûr, parce que c'est du repos, puis c'est du soleil, c'est de la chaleur, ça fait du bien. Mais je te dirais peut-être plus encore en haut des épaules.
Ben écoute, Pierre, je suis content de te retrouver. Quand j'ai vu ton bronzage difficile à dissimuler du côté de RDS, je me suis dit, cet homme n'a pas vécu les tempêtes.
Non, on a vécu la première du vendredi. Ouais. Je pense que vous avez eu la même
Ah oui.
La même fréquence à Québec, là, la grosse du jeudi soir puis celle du dimanche. Là. Mais je te le jure, on a tellement été chanceux de pouvoir prendre le départ entre les deux. Et oui, tu as raison, on s'est sauvé de ça. Tous les matins, on n'a pas perdu notre habitude, Lynn et moi, on consulte nos tablettes, on regarde l'actualité. Puis je te jure qu'on avait une compassion pour les gens au Québec. Là. On n'était pas au-dessus de nos affaires, comme on dit en bon québécois. On disait c'est épouvantable, c'est terrible. Puis là, ben, tu penses à ta famille, tu penses à tes amis, tu penses à tout le monde. Puis tu te dis, est-ce qu'on est chanceux de s'évader de ça? Fait qu'on avait plus cette attitude-là que d'être
tu vois ce que je veux dire? Rester coincé dans la neige sur le bord de la rue à Montréal.
Ouais, c'est pas tout à fait notre nature. On avait beaucoup de compassion pour ce qui se passait chez nous au Québec, mais vraiment, c'est la vie, comme je te disais, me donnait ce petit moment-là de répit à peu près une première, puis probablement une dernière fois là, avant longtemps. Alors, ça a été... Mais le retour que j'en retire est extraordinaire, vraiment. Puis je te racontais avant d'aller en onde que j'en ai profité aussi pour sortir un peu de mes dans mes moments d'évasion. J'ai regardé Bohemian Rhapsody sur le vol du retour.
Le film de Queen.
Puis je comprends, Denis, parce que moi, je suis pas cinéphile. Ça, je vous l'ai toujours dit, je ne joue pas à ça. Je fais même pas semblant, je suis nul en cinéma. Donc, je présume que je suis pas un bon public. Probablement que je suis trop facile pour les films qui sont critiqués.
Au contraire, t'es le meilleur public, Pierre.
Je pense qu'Hollywood pense beaucoup à toi quand ils font un film, là, de dire...
Écoute, peut-être, Denis, mais je suis peut-être aussi un très mauvais juge quand le film est très bon puis que le film est bien coté ou bien critiqué, peut-être que moi, je ne vois pas ça non plus. Fait que c'est pour ça que je dis ça en toute innocence, mais j'ai adoré ça.
Mais j'étais
dans le mode des vacances. On prenait un petit verre dans l'avion en revenant. J'étais très sensible. Ma sensibilité était à fleur de peau. J'ai pleuré à plusieurs reprises en regardant ce film-là. Je l'ai regardé avec un degré de base, plutôt que le regarder avec un œil averti, puis essayer de trouver les erreurs.
Pierre, c'est un film qui a gagné un paquet de récompenses, un paquet de trophées. Moi, c'est peut-être mon côté conspirationniste mélomane de détraqué, c'est que...
Je trouvais ça trop léché, on avait aplati un peu l'histoire.
Ben, en fait, c'est que il y a des histoires qui ont circulé comme de quoi les gars de Queen voulaient refaire un peu leur histoire pour enlever les aspects un peu plus négatifs. Mm-hmm. Puis je pense qu'on voulait laisser une zone d'ombre à l'écart de ce film-là, entre autres concernant Freddie Mercury. Il y a des erreurs de fait, il y a des anachronismes et ainsi de suite. Mais au total tout, je veux dire, c'est un film que la plupart des gens ont aimé. Puis comme je te dis, ça a été récompensé à de multiples reprises.
Ben écoute, je te crois sur parole, Denis, puis comme je te dis, mais pour moi, ça a été comme la bonne façon de clore cette semaine-là. Et moi, je me suis laissé embarquer beaucoup. Mais j'ai lu les critiques dont tu parles par rapport, disons, au film sur la vie d'Elton John qui avait reçu beaucoup de bonnes critiques. Ouais. Mais ce que tu racontes, ça me fait un peu penser au navet que Sylvester Stallone avait produit sur le sport automobile.
Drive. C'est
Driven.
Driven, oui, c'est ça.
Non, mais ça, sérieux, là, moi, je l'ai regardé, ça, je ne l'ai pas regardé au premier degré, c'est-à-dire, je ne l'ai pas regardé au dernier degré, je l'ai regardé au premier degré, et quand tu parles d'erreurs de fait, ça, c'était bourré d'erreurs, d'incongruité, de stupidité, c'était épouvantable, alors voilà, c'est un peu le récit de ma semaine.
Pierre, quand je t'ai vu côte à côte avec Juraj Slafkovský lors de l'avant-match mardi soir, je sais que vous n'êtes pas rendu à la même place dans vos vies, mais dans un cas comme dans l'autre, je me disais, voici deux gars à qui ça fait du bien de se reposer un peu puis de recharger les batteries.
je pensais que tu allais dire, mon Dieu, que t'es petit. Parce que Lynn, ça a été son premier commentaire.
Ah, ben tabarnouche.
Lynn a dit, ça se peut pas, tu aurais dû demander un tabouret pour te surélever. Alors, il est grand puis il a des grosses mains. Oui, ça lui a fait du bien, puis c'est une belle histoire que celle de tout le trio, en fait. Puis, tu sais, je sais pas où ça va mener cette saison, Denis, mais ce que le Canadien est en train de faire depuis le retour, puis de revenir dans le mix, puis regarde, même Martin Saint-Louis l'a dit hier, on n'est pas naïf, là, on n'est pas gnagna. On regarde le classement, puis on sait où on est dans les échelons du classement. On sait très bien que c'est pas juste l'écart de 5 points, c'est l'écart de 5 points, mais avec des équipes devant nous. Mais ce que j'aime, c'est que cette équipe-là a décidé de mettre un peu d'œillère là-dessus. Puis il y a eu de l'introspection qui a été faite dans cette pause-là. Tu as tout à fait raison, Denis, de le soulever. Puis c'est vrai pour Slafkovský, puis c'est vrai aussi pour Suzuki et pour Caulfield. Puis tu sais à quel point, Denis, ils étaient déçus. Ils l'ont pas dit trop fortement. Il était déçu, Nick Suzuki, de ne pas être invité. Cole Caulfield aussi était déçu. Puis c'est normal. Moi, j'étais à Tampa quand les Jeux de, j'hésite, en 2002 et 2006, là. Je pense que c'est 2006, quand on a boudé Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier. Le hasard a voulu qu'on était à Tampa. Ils étaient pas contents, ils étaient malheureux d'avoir été laissés de côté par l'équipe canadienne. Mais l'important, c'est comment tu réponds à ça, ouais. Comment tu réagis à ça. Et regarde les matchs que le capitaine Nick Suzuki vient de connaître depuis le retour, à commencer par celui d'Ottawa samedi passé. Regarde comment ça rejaillit sur ses deux compagnons et comment ses deux compagnons rejaillissent sur lui aussi. Alors, ça, c'est une très, très belle histoire que celle-là. Et quelle meilleure conclusion que le but gagnant.
Écoute,
le but spectaculaire de Cole Caulfield.
Je veux absolument qu'on prenne quelques minutes pour parler de ce but-là parce que j'ai deux questions à te poser sur deux aspects. Un but comme celui-là, c'est un but qu'on va voir dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. À chaque fois qu'on va faire le Greatest Hits de Cole Caulfield, ce but-là, vraisemblablement, va être dedans. C'est une pièce, c'est un chef-d'œuvre. La feinte est hallucinante. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu le sais, quand tu décris un but comme celui-là, que tu es en train de décrire un classique ou un Greatest Hits? Et est-ce que le joueur, d'après toi, sur la glace, le sait tout de suite? Oh, celui-là, il s'en va dans ce qu'on va appeler mon highlight reel personnel.
Highlight reel,
ouais.
Oui, le fameux highlight reel. je te dirais probablement oui, avec une certaine nuance. Pour le joueur, je pense qu'il en est bien conscient. Tu as vu sa réaction après.
Oui.
Les réactions en disent long, hein, souvent sur la satisfaction d'un athlète sur ce qu'il vient d'accomplir, parce que ça va au-delà du hockey. Ça peut être un golfeur, ça peut être un pilote automobile, et ainsi de suite. Mais je pense que l'athlète le sait très bien. Maintenant, est-ce que l'athlète, sur le moment, dit « Ouais, ça va être dans mon top 5 » quand t'as 23 ans, 24 ans, tu dis « J'en ai encore pas mal à accomplir. » Tu vois,
ouais.
Moi, dans mon cas, parce que j'en ai décrit tellement de matchs et j'ai décrit tellement de jeux, où je te dirais oui, tu le vois venir. En fait, tu vois venir la perspective, la possibilité de.
OK.
Et hier, si tu te rappelles, c'était brouillon un peu avant ça. Puis il n'y a rien qui te laissait croire que tu aurais pu voir Caulfield en échapper.
Quand tu dis brouillon un peu avant ça, tu parles des trois périodes et du début de la prolongation, ça?
Oui, même la prolongation, c'était pas un chef-d'œuvre. Je te dis, Marc l'a dit, c'était pas un... Marc il a changé d'artiste. Il a changé d'artiste peintre. Avant, c'était un Picasso, là, il est rendu à Monet. Le match, c'était pas un Monet hier. Mais tu vois... Probablement, sans avoir le temps de te le dire, c'est ton instinct, c'est ton expérience qui te dicte ça. Tu dis, waouh, il va peut-être avoir une finalité euphorique à ce moment-là qui se dessine sur la glace. Tu te le dis sans te le dire, sans t'en rendre compte. Puis, dans le fond, je pense que je te l'ai déjà exprimé, comme descripteur de jeu, tu fais ta croissance, là, tu fais ton build-up, si vous me permettez l'expression. Tu vois venir, tu sais que c'est Caulfield, tu sais que. En fait, tu sais que les acteurs sont les bons, puis t'espères qu'en faisant ton crescendo, t'espères que le dénouement soit le dénouement ultime. Sinon, ben écoute, tu vas parler « Ah, quelle occasion ratée, quel arrêt du gardien ». Tu vas t'en tirer avec un mauvais dénouement.
On va appeler ça en termes sportifs, Pierre, un coït interrompu.
Hier, il n'a pas été interrompu.
Non,
il est allé jusqu'au bout.
On s'est rendu au bout.
On s'est rendu au bout. Denis, une fin heureuse.
Voilà.
On s'est rendu à la fin heureuse. Mais finalement, c'est des moments magiques. Moi, les gens me demandent comment ça se fait que tu es encore passionné, puis comment ça se fait que tu veux encore continuer, puis comment se fait-il que. Ben moi, je le réponds toujours par un terme générique, la passion. Mais là, c'est un bon exemple hier. C'est sûr que tu veux être à la hauteur du jeu. Tu veux que ta description ait été fluide jusqu'au bout parce que tu sais que c'est un moment qui va passer en boucle, pas seulement dans les bulletins de sport, mais qui va rester, comme tu dis. Je vais te donner un exemple. Michael Ryder était au match hier. Puis pour saluer Michael Ryder, qui était là avec ses enfants, on a montré des séquences de la remontée du Canadien contre les Rangers.
Oui, oui.
Le 5-0 puis la victoire. Puis Ryder, si tu te rappelles, avait joué un grand rôle dans cette journée-là. Ben, ce sont mes descriptions que j'entendais. Je ne suis pas en train de me vanter. Je suis en train de vous partager comment ça me donne des frissons de revivre ça, d'avoir été celui qui avait à relayer le message à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est ça qui nous drive beaucoup dans notre métier et dans notre longévité.
C'est d'être dans le fond, le premier témoin et le premier communicateur d'un événement, je veux dire, quand on suit l'actualité, puis tu nous disais, tu sais, quelque chose que j'ai jamais fait, que j'aimerais faire, c'est couvrir une soirée électorale, parce mm-hmm. qu'il va arriver des choses. Et hier, on a confirmé, en début d'émission, on ouvrait les micros, puis on confirmait que le ministre Éric Kerr démissionnait. Mm-hmm. Puis là, t'embarques, puis tu réagis à chaud, t'es là avec les auditeurs, t'as l'impression mm-hmm. de vivre un moment privilégié. Quand le Festival d'été annonce sa programmation en direct, on a les micros ouverts, on voit les noms, on réagit. C'est des moments qui sont que moi, je trouve spéciaux. Puis ça doit l'être encore plus quand tu sais que tu vas faire partie des lignes d'histoire du Canadien, parce qu'à chaque fois qu'on va reparler de la remontée historique contre les Rangers, on va entendre ta voix sur les meilleurs buts de Cole Caulfield. Puis je le sais, Pierre, parce que mes gars les regardent sur YouTube. C'est ta voix qu'on entend tout le temps, tu sais.
Mais Denis, j'aime tellement ce que tu racontes. Puis en même temps, là, il n'y a pas de petits moments, là. Ce que vous avez vécu avec la démission de M. Kerr, puis ce que moi j'ai décrit comme but hier, puis je comprends qu'il y a un aspect historique, puis tout ça, mais il n'y a pas de petits moments, Denis. Mm. Moi, je pense que quand on fait ce métier-là, puis je pense que c'est un peu, ça faisait partie du, pas du message, là, je trouve ça un peu pompeux, mais ça faisait partie des propos que je voulais partager ou de mes expériences que je voulais partager avec vous il y a quelques semaines.
Ouais.
Quand tu as ce feeling-là, mais quand tu l'as de la bonne façon, c'est-à-dire que t'as un niveau de d'émotion, mais d'excitation peut-être, là, qui grandit, ça veut dire que tu fais le bon métier et tu le fais pour les bonnes raisons. Mmh. Et l'autre chose qui t'oblige à être très humble, c'est que t'es rien d'autre que le messager.
Ouais.
T'es l'intermédiaire. T'es celle ou celui qui va digérer l'événement, mais qui va en saisir l'ampleur et qui va être capable de le transmettre là où le message se termine. Dans votre cas, la voiture, le bureau, la maison, et ainsi de suite. Dans mon cas, c'est plus les salons et les bars sportifs, parce que c'est comme ça qu'on consomme le hockey. Alors, ça veut dire qu'on fait le métier pour des bonnes raisons. Et si on dure, ben, ça veut dire qu'on continue à le faire pour des bonnes raisons.
Pierre, je veux aborder un sujet délicat avec toi parce que j'ai remarqué depuis quelques matchs, puis je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est enfargé dans la console de RDS ou s'il y a vraiment de l'ambiance par les temps qui courent dans le Centre Bell, mais il faut que je te le dise, Pierre, je sais que tu parles pendant qu'il y a la sirène après les buts. On t'entend plus.
La foule, la foule t'enterre.
La sirène, l'ambiance, les cris, on est à peu près 10-15 secondes après un but du Canadien à te perdre dans le bac.
Écoute, j'aimerais avoir une réponse technique pour vous. On reçoit souvent ce genre de commentaires, selon là où on est, selon... Et je l'ai soumis souvent, cette question-là, à nos gens de technique qui sont hyper compétents. D'ailleurs, c'est tous ceux qui ont réussi le miracle de nous garder en onde là, après l'inondation, il y a un an presque maintenant. Et je n'ai pas de réponse, Denis. Je pense que ça a à voir avec selon la plateforme qui diffuse.
Okay.
Je pense que ça a à voir... Parce que ce que tu reçois comme produit final, en image et en audio, on n'a pas 100% du contrôle. Nous, mm-hmm. on a 100% du contrôle sur ce qui s'en va vers le diffuseur. Mais la plateforme de diffusion, on n'a aucun contrôle dessus.
Parce que je voulais te poser la question, y a-tu plus d'ambiance au Centre Bell cette année, mettons qu'il y a 2 ans, à l'oreille pour toi?
Ceci dit, il y en a beaucoup.
Ouais.
Puis, oublie pas une chose, on a tout refait le système audiovisuel au Centre Bell.
Oui, avec le nouvel écran. Puis tout
je peux te dire qu'au niveau sonore, mon cher Denis, je vais utiliser un vieux terme de radio FM des années 70, ça crache.
C'est cette impression-là que j'ai, en tout cas.
Non, mais je peux te dire une chose, et c'est pas seulement chez nous, là. Écoute, à Toronto, on est à la hauteur des haut-parleurs puis les subwoofers puis tout ça. C'est épouvantable. On s'entend à peine parler entre nous, même avec le casque d'écoute. Alors, il y a vraiment un accroissement de l'ambiance sonore ou de l'expérience sonore dans les arénas. Mais au niveau d'RDS, écoute, comme diffuseur, selon les plateformes, on m'a même expliqué, ça va aussi loin que selon le récepteur que tu as chez toi.
Ouais.
Parce que de plus en plus, le son est raffiné. Si le téléviseur, si le récepteur n'a pas cette capacité complète, ça se peut que le mélange se fasse mal. Et je sais que c'est frustrant pour bien des gens, je m'en excuse. Nos techniciens en sont très conscients.
Non, mais moi, je trouve que ça fait partie du délire puis de la joie puis de la célébration d'un but. Je veux dire, si t'es dans l'aréna puis que tu parlais avec un de tes chums à côté puis que là, il se score un but, tu peux continuer de parler, mais il n'y a plus personne qui écoute. Je trouve que ça fait partie de la frénésie du moment. Je le disais pas nécessairement comme un reproche, Pierre.
Tant mieux. Et si tu regardes comment Marc et moi, on s'est adapté à cette réalité... Je décris le but, j'ai une première conclusion sur le jeu qui vient d'arriver. Parfois, c'est ma parole, comme hier soir, parce que je trouvais que ça le commandait. Mais tu as remarqué, Marc se donne un 2-3 secondes après ça.
Ouais.
Pour laisser un peu redescendre tout ça. Et là, Marc peut faire son analyse de façon un peu plus audible, un peu plus convaincante.
Là, on est à une semaine de la date limite des échanges. Pierre, comment tu files? Es-tu dans le mood « Wow, ça va être grisant d'animer pendant 6 heures ou pendant 8 heures la journée de date limite des échanges » ou t'es plus dans le mood « Ouais, il va falloir que j'aille chercher beaucoup d'anecdotes là, parce que ça va être tranquille cette année?
» en fait, techniquement, Denis, c'est que Marc et moi, on est à Calgary.
OK.
Ce jour-là. Donc, on ne sera pas chef d'antenne.
Okay.
C'est Andréanne qui sera sur le plateau avec ses collaborateurs. Mais Marc et moi, on va être dès 7 heures le matin. On va arriver au Saddle Dome. On va s'installer là pour la journée. Puis, on sera des collaborateurs réguliers plusieurs fois par heure pendant 6 heures. Et donc, nous, on va avoir un rôle différent. Mais on va quand même avoir, en fait, deux rôles. On va avoir un rôle de regarder ce qui se passe du côté du Canadien. Parce que pendant qu'on va intervenir... Vous allez voir derrière nous, le Canadien s'entraîner. C'est la journée de libre à Calgary.
OK.
Donc, le Canadien va s'entraîner parce que le match est à 5 heures, heure locale à Calgary. Le Canadien ne s'entraînera pas de façon intense. Ce sera peut-être un entraînement optionnel le samedi matin. Donc, tu vas avoir un entraînement important. Et nous, on va être sur place avec l'équipe pour...
Très cool.
Donc, s'il se passe quelque chose, on va être là. Et on va commenter aussi ce qui se passe à travers la Ligue. Donc, ça, c'est pour le rôle différent cette année à cause de l'éloignement. On ne pouvait pas être chef d'antenne là-bas, logiquement, à Calgary. Deuxièmement, ta question est tellement bonne. Moi, je vais te dire, j'ai de la misère à trouver une réponse parce que de mémoire, Denis, puis je te le disais récemment, de mémoire depuis l'instauration du plafond salarial lors du dernier lockout en 2004-2005, je n'ai jamais vu le classement de l'Est aussi resserré que celui-là. Écoute, t'aurais pu penser il y a 2 mois à peine qu'on aurait liquidé, vidé les Blue Jackets de Columbus. Mais là, soudainement, les Blue Jackets de Columbus cherchent qui ils peuvent aller chercher pour le push qu'ils veulent donner pour aller en série. Même chose pour les Red Wings de Détroit. On les éliminait il n'y a pas si longtemps. Mais le Canadien, même si réalistement, c'est un objectif ambitieux et le mot est faible. Comment veux-tu que le Canadien, au moment où on se parle, ait déjà la conviction de dire « Hey, on va laisser aller lui, on va laisser partir lui, lui, il va être sur le marché, on va les offrir en bloc dans le cas d'Evans et Armia, comme tu as sûrement entendu les rumeurs.
Oui. »
Comment veux-tu qu'on fasse ça dans une équipe qui mathématiquement est encore dans le coup? Mm-hmm. Moi, je te dis, c'est une situation incroyablement difficile pour Kent Hughes et pour Jeff Gorton. Même chose pour les Bruins, même chose pour les Sénateurs. C'est une réalité qui frappe les équipes proches des Red Wings et des Blue Jackets, qui pour l'instant sont les équipes repêchées. Alors, je ne sais pas dans quelle direction on va aller. On a beau dire, tu sais, on ne dérogera pas du plan, puis on ne sacrifiera pas les 3 prochaines saisons pour s'adapter à court terme. Il reste que c'est pas si évident que ça. Tu as aussi un message à envoyer à ton vestiaire.
Ouais.
Puis sais-tu qu'est-ce que... Je vais te donner ma théorie, là, pourquoi le Canadien est revenu aussi fort, puis Nick Suzuki, comme capitaine, joue un rôle aussi fort présentement. Je pense que personne dans ce vestiaire-là veut voir un coéquipier partir. Mmh.
C'est l'impression que ça donne. On voit beaucoup d'images en coulisses dans le vestiaire, entre autres hier, après la victoire en prolongation. Puis on voit une jeune équipe qui est soudée. On voit des vétérans qui s'animent. Tu sais, Brendan Gallagher qui anime l'after show dans le vestiaire pour donner les récompenses et tout ça. L'impression que ça donne, c'est que s'il y a un échange, même si c'est un bon échange pour l'organisation, ça va être une mauvaise nouvelle dans le vestiaire du Canadien.
C'est pour ça que y a bien des gens qui se demandent si l'équipe restera pas telle qu'elle est et procédera à ces changements, à ces transactions, ou encore là, en laissant aller des joueurs autonomes, fera ça plutôt cet été, Denis, plutôt qu'à la date limite des transactions. Parce que, pour l'instant, Puis c'est bien beau de dire, ah, tel joueur a une valeur, tel joueur a une valeur. Bon, David Savard, quelle valeur a-t-il dans une transaction? Est-ce que, si t'es Kent Hughes, là, puis c'était Martin Saint-Louis, mais Martin Saint-Louis va dire, j'ai pas de mots à dire là-dedans. Est-ce que tu laisserais partir un grand frère, essentiel encore, pour un choix de sixième ronde?
Ben, difficile. Moi, je le ferais pas, là.
Bon, voilà. C'est ça mon point, Denis. C'est que quand t'es en reconstruction complète, puis t'es au début du processus, t'as une approche qui est particulière. Quand t'es pas trop loin d'avoir ton rythme de croisière, puis d'avoir atteint ton rythme de croissance, là, je dirais pas exponentiel, mais régulier, c'est différent. Puis regarde ce dont on parle beaucoup, Marc et moi, lorsqu'on décrit des équipes qui reconstruisent comme les Sharks. Tu peux pas juste avoir des jeunes. Les Oilers ont fait cette erreur-là pendant des années. Ils repêchaient, Denis, puis ils repêchaient, puis ils repêchaient, puis ils repêchaient, puis ils gagnaient pas, puis ils participaient pas aux séries. Pourquoi? Il leur manquait des vétérans. Ouais. Il leur manquait du papier sablé. Il leur manquait des David Savard qui se jettent encore devant les tirs, même si l'équipe perd 3-0 dans un match, tu sais.
Ben dans la même optique, Pierre, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est pas quelque chose que je te souhaite dans la vie, mais mettons que tu serais Don Sweeney, là, le directeur général des Bruins de Boston. Est-ce que tu échanges ton capitaine? On parle de vétérans qui ont leur importance dans le vestiaire. Brad Marchand a déclaré qu'il voulait pas partir de Boston. Mais au-delà de ça, moi, tout ce que je fais depuis le début de la semaine, c'est lire des textes. 5 destinations. Brad Marchand pourrait se retrouver, et ainsi de suite. Donc, il se passe quelque chose là, là.
Ben moi, je pense qu'il y a deux choses qui... La première chose, c'est qu'un joueur comme Brad Marchand, et j'ose croire que Don Sweeney aurait cette clairvoyance-là, tu mets ton joueur dans le coup. Première chose, Denis, essentielle. Et ça, chez le Canadien, je dois avouer que les joueurs le disent eux-mêmes. Ils sont tenus au courant. Ils sont dans le coup. Il y a une transparence qui vient de la haute direction et qui leur dit « voici où on en est ». C'était un David Savard, c'était un Dvorak, c'était un Armia, c'était Evans. Évidemment, là, on parle de joueurs qui n'ont pas de contrat dans les derniers cas. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans le cas des joueurs qui sont déjà sous contrat, tu les mets dans le coup. Puis, je ne te dis pas que c'est le joueur ultimement qui décide, mais le joueur fait partie du processus. Brad Marchand, s'il dit, écoute, vous allez m'assassiner moralement et au niveau psychologique si vous m'échangez, j'ose croire que la direction des Bruins va changer d'idée. Mais si on dit, écoute, Brad, on a cette perspective-là pour toi, tu regardes l'avenir comme nous, on est réaliste avec l'avenir, tu aurais une opportunité d'aller, je sais pas, me rehausser les Golden Knights de Vegas, parce que c'est toujours eux autres que je pense qu'ils peuvent avoir le coup de circuit, là, comme on a vu les dernières saisons. Est-ce que tu t'accepterais d'y aller? Mais... encore là, où sont les Bruins, Denis? Les Bruins sont à 4 points des Blue Jackets.
Oui, ils sont à 4 points, mais les dernières performances ont été loin d'être convaincantes. Puis même hier, avec un monopole sur les lancers au but, à un moment donné, c'était 16-1. Et le premier but a été marqué sur le deuxième tir des Islanders. Puis c'est 2 défaites en 2 matchs. Puis c'est pas 2 défaites reluisantes, là.
Je comprends. Mais écoute, je sais que c'est vendredi prochain. D'ailleurs... de Calgary, je vais vraiment essayer de trouver un moment pour vous parler. Là.
Ah, Denis va être en relâche, mais moi, je vais vouloir suivre ça avec toi.
Véro, aucun problème, je serai là. On se parlera avant pour essayer de trouver un moment avec le décalage de 2 heures. Mais tu vas rire, hein? On est peut-être encore trop tôt pour donner des réponses à tes questions, Denis. Puis pourtant, on est à une semaine.
Ben oui.
Ainsi va la vie dans l'Association Ouest. C'est quand même assez incroyable.
Pierre, ça fait un an déjà cette semaine que ton frère Paul nous a quittés et t'as partagé sur tes réseaux sociaux une vidéo qui a été réalisée par Urbania qui s'appelle « Courrier recommandé ». C'est une vidéo que j'ai regardée. Puis j'ai ri tout le long. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu dans le contexte qu'on connaît. Ouais. Puis j'ai encore ri tout le long, puis j'ai pris la liberté de le partager sur mes réseaux sociaux avec les auditeurs de Boulevard. Puis Pierre, tout le monde a un sourire d'en face de voir cette complicité-là et cette collaboration-là trop rare dans les médias entre toi et ton frère.
Ben, je pense que Urbania a réussi un coup de circuit en nous demandant de participer à ce petit segment.
Oui.
Et je te dirais, Denis, que vous m'avez entendu souvent dire que une des grandes tristesses qui accompagne le départ de Paul, c'est de ne pas pouvoir concrétiser une volonté qu'on avait de plus en plus de travailler ensemble. On commençait à comprendre comment on pouvait être bons partenaires de danse ensemble. Et ça, ça a été comme magique. Écoute, tout a été improvisé là-dedans. Ça je te jure, Denis.
Je crois.
On n'avait aucune idée des questions qu'on allait recevoir. On n'avait aucun guide au préalable pour nous dire ce qui nous attendait. J'avais regardé quelques autres éditions pour me mettre dans le bain. Et puis, on s'est assis un en face de l'autre et ça a donné ce que vous avez vu. Puis, je te dirais que ce que vous avez vu, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'espèce de délire que Paul et moi, on avait quand on couchait dans la même chambre, Salut Champlain à Duvernay. Honnêtement. Et moi, c'est les pionniers de la radio, je pense, qui ont ressorti ça. C'est une bonne page, incidemment, sur Facebook, là. Surtout pour nous autres, Denis, Véro et Audrey. Là. C'est le fun. Ils ressortent plein de vieilles photos de moi à CFGL. Mais c'est eux, je pense, qui ont eu la bonne idée de remettre ça. J'ai cru le partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ça.
Ouais.
Et je suis... on a eu tellement un bon feeling, Paul et moi, sur ce plateau-là. On a eu des réactions spontanées, chacun dans notre... Puis tu sais, ce qui est fun, c'est que Paul embarquait un peu sur mon terrain, j'embarquais sur le sien. Et en bout de ligne, je suis tellement content. Si tu me dis, ça m'a refait sourire, ça m'a refait rire, ben tant mieux, parce que c'était ça pas mal le but. Et c'est un peu vers ça qu'on s'en allait, lui et moi.
Aviez-vous un projet précis sur la table de collaboration? C'était-tu un podcast? C'était-tu d'autres choses? Y avait-tu une émission de télé?
Rien de précis encore, Denis. Mais disons que du podcast de Urbania, j'ai quand même collaboré à son émission de week-end à 98.5. Et c'était un matin de week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Je pense que c'était le samedi. Et puis, écoute, c'est hallucinant les réactions que ça a provoquées parce que ce qu'on a décidé de faire spontanément, c'est d'amener les auditeurs dans notre univers familial. Et ça, j'ai réalisé à quel point ça créer un coup de foudre avec l'auditoire. Je le dis tout modestement, ouais. Denis, je te jure, là, la recherchiste de Paul, qui est Catherine Huet, qui est extraordinaire, qui est devenue presque un membre de la famille, elle disait, c'est pas possible comment vous êtes naturel quand vous partagez vos souvenirs. Puis, tu sais comment est-ce qu'on est, les Houds, on va chercher les petits détails. Puis, on est un peu stand-up comique, Paul et moi. On l'avoue, là. On a ce timing-là.
Le sens du punch, entre autres.
Je pense que oui. Alors, mais pour te répondre, non, il n'y avait pas encore de projet précis. Paul est parti trop vite. Je pense qu'on aurait pu plancher bien des projets. Je pense qu'on aurait pu ouvrir des portes. Puis c'est pour ça que je dis souvent, écoute, si les Beatles réussissent à sortir une nouvelle chanson à chaque année, puis il y en a deux qui sont partis depuis autant d'années, il y a peut-être une façon magique éventuellement que je pourrais travailler avec Paul sans travailler vraiment avec Paul, tu vois ce que je veux dire. T'sais.
En attendant, on lève nos verres à vous deux, Pierre, puis encore une fois, merci du partage.
Ben oui, puis il y a Paul Seigneur qui est parti à peu près au même moment il y a 2 ans.
Ouais.
Alors, ce furent 2 années assez difficiles. Alors, merci. On lève notre verre aux deux Paul, qui prennent bien soin de moi avec Aline. Je le remarque depuis qu'ils sont partis.
Ils font de la bonne job parce que t'es reposé, t'es bien, puis ça paraît, Pierre.
Ben, écoute, j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à mes parents, reconnaissant à ma famille. Je pense souvent à ma sœur qui, écoute, on est juste 2/5 maintenant, alors on prend soin de nous deux. Puis Denis, je termine 20 secondes en disant que tes passionnés défunts ont probablement suivi les essais hivernaux à Bahreïn, hein? Les 3 jours d'essai sont terminés. Et comme d'habitude, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre une demi-heure là-dessus. On ne sait pas qui est fort, on ne sait pas qui est faible. Plus on les a regardés tourner à Bahreïn, moins on en sait. Tu vois? Alors voilà, tout est normal dans ce beau monde. Donc, Véro, vendredi prochain, on se parle après la date limite des transactions. Puis nous, Denis, quand on va se parler vendredi, tu reviens dans 2 semaines?
Oui, je vais être là pour l'autre vendredi, absolument.
Bien, l'autre vendredi, crois-le ou non, on va être à quelques heures des premières qualifs de F1. Là, on fera une belle demi-heure sur la F1.
Oh, puis il y a bien des choses qui ont changé, on le sait. On va avoir bien des choses à jaser aussi. Là.
Oui, absolument.
Je te lève mon verre, cher Pierre.
Je vous lève mon verre aussi. Je vous aime beaucoup. C'est un magnifique moment encore pour moi aujourd'hui. Je l'apprécie et on se reparle de Calgary la semaine prochaine.
C'est partagé. Bonne fin de semaine, Pierre.
Soyez prudents. Bye bye.
Bye
bye. Ayez du plaisir. Bye bye.
Toi aussi. 16h33, notre ami Pierre Houd, qui effectivement est revenu cette semaine pour décrire les matchs du Canadien. Puis j'avais vu passer ça sur son Facebook, sans commentaire. Il avait juste partagé le vidéo. Puis je me disais, hey, j'ai vu ce vidéo-là, puis j'avais trouvé ça bon dans le temps. Je le réécoute-tu, tu sais. Puis je l'ai réécouté, puis j'ai ri tout le long. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, je le partage avec les auditeurs, moi aussi, parce que c'est un peu ça, tu sais, se souvenir de quelqu'un qui est parti. Ouais. Tu veux. Ben, tu peux pleurer si t'as le goût. Tu sais, si c'est de ça que t'as besoin, tu le fais. Mais de pouvoir rire puis sourire, ça nous met, je trouve, dans une belle bulle de réflexion puis de réaction. Puis le bout qui m'a fait rire le plus dans le vidéo, si vous voulez le voir, je l'ai mis sur mon Facebook, c'est qu'ils vont chercher des questions dans des ballons, mm-hmm. OK?
Qui doivent faire péter, là.
Et à un moment donné, Pierre, c'est des questions toujours sur ton frère. Puis Pierre reçoit une question, puis c'est écrit, « C'est quoi la plus grande mauvaise conception que les gens ont de ton frère? » Puis, du tac au tac, sans même réfléchir, Pierre a répondu, « La plus grande mauvaise conception qu'ils ont de mon frère, c'est qu'il est drôle. »
Puis, le pire, c'est que dans cette vidéo-là, puis allez le voir, là, moi, à l'époque, quand j'avais regardé, j'avais trouvé Pierre tellement plus drôle que Paul, et j'avais cette conception-là que Paul était plus drôle à cause de la fin du monde est à 7 heures.
Puis Paul était le premier à avouer que dans la vie de tous les jours, il était plate comme la pluie. Là. Fait que il y a des beaux moments de complicité. Il aurait fait un podcast extraordinaire, les deux ensemble.
Là. Ah non, chez les Hoods, moi j'aurais écouté ça. Là.
Ah, on l'aurait acheté et on vous aurait mis ça le lundi soir, évidemment. Hey, 16h35, avant de faire la pause, Audrey dans la circulation.
Capitale, direction Est, à la hauteur du boulevard Saint-Jacques, la voie de gauche qui est bloquée. Un accident. Présentement, sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est super difficile. Ouest, c'est entre Boréal et Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale, au ralenti. Charest Est, ça se passe à la hauteur de Robert Bourassa pour aller chercher les ponts, direction Sud. C'est difficile en ce moment. Si vous êtes sur Henri IV, là, ça commence à ralentir à peu près à la hauteur de Versant Nord jusqu'au pont. Duplessis, direction Sud, c'est à Quatre-Bourgeois que ça commence à ralentir jusqu'au pont aussi. Puis pour la 20, c'est direction Ouest, surtout que c'est difficile entre la route du président Kennedy. Et Taniata, évidemment, quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 88-971-1021 texto.
Beaucoup d'actualités internationales cet après-midi. On va faire nos devoirs en revenant de la pause. On va revenir, évidemment, sur cette scène disgracieuse, gênante et honteuse, gracieuseté du vice-président et du président américain, mais aussi de toutes les réactions que ça a suscité dans le courant de l'après-midi. Courte pause, on vient.
Gravel